Radio Starbeck.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et voici un jour dans le monde, le programme, le Kenya, une expérience de revenu universel dans un village. Ce sera notre escale reportage. Florence Paracuelos, bien sûr, sur les radars de l'actualité. Le cinéma du monde, les sorties à ne pas rater, avec Eva Bétan. Le film iranien, Quatre consciences, et puis Guillermo del Toro, La forme de l'eau, une love story idylle ultra bizarre. 18h55, l'édito diplo Claude Guibal. La tragédie, le cataclysme humanitaire en Syrie à la Ghouta, ce quartier de Damas pilonné par le régime Assad, les capitales occidentales peuvent-elles s'opposer à ce nouveau carnage signé Assad? Mais tout de suite, l'Afrique et un de ses nouveaux dirigeants en visite à Paris.
Pierre Veille. Un jour dans le monde.
Le président du Liberia, tout récemment élu, George Weah, ex-star du football, est à Paris. Il a été reçu aujourd'hui à déjeuner par Emmanuel Macron. À 51 ans, l'ancien attaquant du PSG de Monaco, Ballon d'Or en 1995, se retrouve à la tête d'un pays qui figure toujours parmi les derniers au monde dans le classement des Nations Unies en matière de développement. George Weah disait encore hier « J'ai hérité d'un pays sans argent ». Son élection a suscité de fortes attentes, surtout chez les jeunes et les classes pauvres. Hamzat Boukhari Yabara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, docteur au Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié en 2014 Unité, une histoire du panafricanisme aux éditions de la Découverte. George Weah, c'est vraiment un symbole fort, un nouveau style de dirigeant africain?
Oui, c'est un symbole fort, c'est un nouveau style, c'est-à-dire que ce n'est pas un politicien classique, c'est un ancien footballeur de très haut niveau, donc il appartient, on va dire, à ces modèles de réussite qui font rêver des millions de jeunes Africains. Il a un parcours atypique et il a toujours été très proche de son pays, même quand il était footballeur. Il a décidé de se lancer en politique il y a déjà une quinzaine d'années. Donc ce n'est pas vraiment un novice du point de vue de la classe politique libérienne ou même africaine, mais il a persévéré, il a fini par obtenir donc le poste auquel il est aujourd'hui. Donc oui, c'est un nouveau style, effectivement.
Lors de la conférence de presse commune, Emmanuel Macron, George Weah, ils ont parlé du sport, en disant que le sport, c'est aussi la possibilité de développer des secteurs économiques. Quand il y a une jeunesse qu'il faut désarmer, c'est le sport, et en particulier le football, qui a permis de le faire, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ce sont de belles paroles ou c'est la réalité?
C'est en partie la réalité. Je crois que Didier Drogba est également présent. Et Didier Drogba, en tant que footballeur ivoirien, du temps de la crise ivoirienne, justement, tentait de maintenir l'unité du pays par le football. On sait que les compétitions sportives sont justement des moments où il y a une sorte d'unité nationale. Donc effectivement, le football, l'équipe nationale du Liberia est un symbole, je pense, de pas mal de choses. Et le fait que George Weah ait porté cette équipe pendant un certain temps, dresse un certain parallèle avec la manière dont il va devoir aujourd'hui porter le Liberia, ce qui est un tout autre niveau. Être footballeur professionnel et chef de l'État, c'est deux choses vraiment différentes. Et je pense que George Weah va très vite s'en rendre compte et il s'en doutait probablement bien avant.
Y a-t-il aujourd'hui d'autres chefs d'État africains, nouveau style, qui peuvent laisser espérer une nouvelle forme de gouvernance plus honnête, plus limpide, plus compétente?
Oui, en fait, quand on regarde le paysage du continent africain, il y a des chefs d'État assez intéressants. Je pense bien évidemment à la manière dont des pays, les anciennes colonies lusophones, l'Angola et le Mozambique, ont évolué, avec des dirigeants qui sont capables, je dirais, de remettre en cause les anciennes élites, tout en étant elles-mêmes issues de ce système-là. Dans les derniers changements qui ont fait l'actualité, effectivement, on peut citer le cas de Cyril Ramaphosa au niveau de l'Afrique du Sud, mais ce n'est pas à un nouveau venu. Il était déjà dans les successeurs potentiels de Mandela. Et c'est Thabo Mbeki, avec un style plus, je dirais, rigoureux, technocrate, qui avait succédé à Mandela, puis ensuite Jacob Zuma, plus populiste et controversé. Donc là, Ramaphosa est un président, je dirais, néolibéral, pragmatique, qui a fait fortune dans les affaires. On peut également penser, je pense, au niveau...
Le Zimbabwe, il y a aussi un changement.
Même si là encore, ce n'est pas vraiment un changement...
Avec Emerson Mnangagwa, qui a 75 ans.
75 ans, voilà, donc ouais. Ce n'est pas non plus la nouvelle génération. Et surtout, ce sont des changements qui restent contrôlés par les partis au pouvoir. Dans le cas de George Weah, on a une vraie, je dirais, alternance. pas nécessairement une alternative, puisqu'on sait que l'élection présidentielle s'est jouée sur des compromis. Mais dans le cas des autres pays, ce sont, je dirais, des partis politiques historiques, l'ANC, le MPLA, la ZANU-PF, qui ont fait des révolutions en interne. Et je pense que suivre ce qui va arriver en Éthiopie, où le Premier ministre est démissionnaire et attend sa succession, va être aussi très intéressant.
Et puis il y a le style très original du nouveau président du Ghana. Il a été élu il y a un an, Nana Akufo-Addo, il a 73 ans. Alors lui, il dit, on peut se débrouiller finalement seul. On n'a pas besoin de l'aide internationale.
Oui, tout à fait, parce que le Ghana était l'un des premiers pays, déjà le premier pays indépendant en Afrique au sud du Sahara, avec Kwame Nkrumah, donc un leader panafricaniste, et qui a ensuite, dans les années 80, été le premier pays à être vraiment pris dans les programmes d'ajustement structurel du FMI. Donc le Ghana a beaucoup souffert dans les années 80 et 90. Nana Akufo-Addo prend la suite de différents présidents qui, selon moi, on fait du très bon boulot du point de vue de la gestion des affaires publiques. Le Ghana est le pays, je crois, en Afrique qui a la croissance la plus importante. C'est un pays dans lequel le climat
8% de croissance,
économique, politique, sociale et culturelle est très vigoureux. J'y étais au mois d'août dernier. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, ce pays est tout à fait en droit de tenter l'expérience de sortir de ses dépendances liées au programme d'aide. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un parallèle assez saisissant entre la manière dont le président ghanéen a, je dirais, un peu balayé les propositions d'Emmanuel Macron et la manière dont George Weah, lui, vient à Paris finalement pour obtenir de l'aide pour des programmes d'éducation, de financement d'éducation. Donc on voit bien qu'entre le Ghana et le Libéria, ce sont aussi deux trajectoires très, très différentes, deux contextes très différents. Mais le Ghana a tout à fait la possibilité, je pense, d'aller, d'être une très bonne surprise.
Et ce président du Ghana, Akufo-Addo, est devenu une star des réseaux sociaux parce que son style très direct, sa façon de dire, ben voilà, le continent africain dispose de 30% des ressources mondiales de minerais, de la plus jeune population du monde, on peut se débrouiller, c'est fini la mendicité. Ce langage, ça plaît.
Oui, c'est un langage qui plaît. Je pense que c'est un langage qui est d'actualité parce qu'on a toute une jeunesse qui espère s'en sortir sans avoir à quitter son continent. Donc le fait que des chefs d'État prennent ce type de position est extrêmement intéressant. Maintenant, il y a aussi beaucoup de travail à faire au Ghana. Il ne faut pas non plus écarter les effets d'annonce. Il y a des défis encore que le pays doit relever. Mais le fait que le chef d'État ghanéen prenne cette position-là est très intéressant. Et en même temps, on constate de manière assez paradoxale que ces dirigeants du Libéria, du Ghana, sont aussi une certaine francophilie qui peut surprendre. Donc là aussi, je pense que c'est plus un message qui est adressé non pas tellement à la France, mais peut-être aux anciennes colonies françaises ouest-africaines qui ont également les moyens de s'en sortir, mais qui sont de plus en plus justement au contraire dépendantes de la France, si on prend les cas du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire.
Avec ces nouveaux dirigeants qu'on voit apparaître, avec eux, la corruption, les détournements de l'aide internationale, le pillage des caisses de l'État, ce sera fini ?
Alors, ils arrivent tous avec cette annonce, que cela soit Ramaphosa, qui, je pense, au niveau de l'ANC, appartient à une branche extrêmement corrompue, mais qui annonce qu'il va lutter contre, ou George Weah, qui fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Je pense que ce sont des défis colossaux qui nécessitent effectivement de travailler sur l'éducation. Je pense que c'est par des réformes sur l'éducation qu'on arrivera à faire reculer la corruption et aussi, bien évidemment, en donnant de l'emploi à la jeunesse et en faisant en sorte que l'économie puisse créer des opportunités sur place. Donc c'est du point de vue, je dirais, du type de gouvernance, du type de projet qui seront réellement mis en place qu'on verra si ces dirigeants sont réellement en accord avec leurs actes. Mais du point de vue du Ghana, je pense qu'il y a quand même de bonnes pistes qui sont mises en place.
Pour vous, c'est une priorité absolue pour le continent africain qu'au plus vite ils réussissent à se débarrasser de ces dictateurs toujours en place, parce qu'ils sont quand même nombreux, des chefs d'État inamovibles, des dynasties qu'on n'arrive pas à faire bouger, Bongo, Kabila, Biya, Sassou Nguesso, Eyadema, tous ces gens-là font un mal considérable à l'Afrique et sont-ils responsables de ces exodes, de tous ces migrants, ces milliers de migrants qui fuient le continent africain au péril de leur vie ?
Alors ils ont une responsabilité certaine. Ce sont des dirigeants plutôt effectivement dans les anciennes colonies françaises, mais pas que, qui sont présents soit par de manière dynastique, soit personnellement depuis 20, 30, 40 ans, voire même 50 ans. Je pense que ce type de régime, une fois qu'ils vont tomber, ne se reproduiront plus. C'est-à-dire qu'on aura de moins en moins des pouvoirs qui vont se maintenir 20-30 ans. Parce que les choses aujourd'hui s'accélèrent de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de contestations. Il y a également une pression démographique dont on doit dire qu'elle est aussi une pression politique et sociale de la jeunesse pour qu'il y ait justement des changements de régime et des changements de gouvernement. Donc ils ont une responsabilité. Maintenant, ils ne sont pas nécessairement présents dans les pays d'où l'exode est le plus important, mais ils ont quand même une très forte responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Et on constate aussi que les dirigeants des anciennes colonies françaises ont, je dirais, beaucoup plus de solidarité négative entre eux que les dirigeants des colonies, enfin des anciennes colonies anglaises ou lusophones, qui eux sont beaucoup plus, je dirais, pragmatiques, autonomes, voire même autosuffisants.
Hamzat Boukhari Yabara, vous parliez à l'instant de la démographie. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron a eu raison de poser la question du contrôle des naissances en Afrique, comme il l'a fait à plusieurs reprises en 2017?
Je ne pense pas que cela soit sa prérogative de le poser. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes en Afrique qui travaillent et qui interrogent cette question et qu'elle n'est pas inconnue de la part des gouvernements africains. Néanmoins, le fait de la poser publiquement, effectivement, a permis, je dirais, de crever l'abcès sur pas mal de choses. Ça a permis d'identifier les positions des uns et des autres. Et c'est évident qu'il y a, du point de vue des sociétés africaines, un débat sur comment, non pas bloquer la démographie africaine, mais comment en faire justement un facteur d'émancipation, un facteur de développement. Et ça renvoie encore une fois à la question de l'éducation qui est la priorité souvent affichée dans les discours, mais pas nécessairement du point de vue des lignes budgétaires.
Alors on parle ce soir de cette visite à Paris du président du Liberia, George Weah, un nouveau style de dirigeant africain. Aider ces dirigeants nouveau style qui promettent une gestion plus saine, plus limpide, plus honnête, est-ce que c'est une priorité pour nous européens, parce que l'Afrique, c'est notre voisin immédiat et elle connaît, on y revient, une progression démographique absolument fulgurante. Je veux dire, c'est un voisin. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'habitants sur le continent africain, 2 milliards en 2050, 4 milliards à la fin du siècle. On ne peut pas ignorer ça.
Oui, on ne peut pas l'ignorer, mais je pense...
Nos destins sont liés.
Pas nécessairement, parce qu'il y a quand même une très grande majorité, la très très grande majorité des Africains qui vivent en Afrique sur le continent, et la très grande majorité des déplacements ont lieu à l'intérieur du continent africain. Donc il y a quand même une problématique continentale qui est majeure, et je ne suis pas certain qu'il faille externaliser les enjeux et croiser, je dirais, des questions d'asile, d'immigration avec des questions de démographie africaine. Je pense que les choses sont beaucoup plus globales. Néanmoins, du point de vue de la redistribution des ressources, oui, il y a effectivement un lien entre la manière dont les États occidentaux européens évoluent et les problématiques sur le continent africain. Il y a des liens de dépendance, que ce soit les liens monétaires avec le franc CFA ou culturels avec la question de la francophonie qui fait actuellement débat, qui nécessite qu'il y ait, je ne dirais pas de l'aide de la part des pays, entre guillemets, du nord vers ceux du sud, mais davantage de compréhension et peut-être aussi de retrait pour laisser les Africains, ben, justement, assumer leurs responsabilités dans la mesure où on a des dirigeants qui sont de mieux en mieux élus, même si ce n'est pas le cas partout, et qui, du fait d'être de mieux en mieux élus, devraient être de mieux en mieux en capacité, justement, d'assumer les volontés des populations. Donc il y a, je dirais, cet équilibre à tenir, tout en sachant que les pays africains ne limitent pas leur diplomatie à l'Europe. Ils ont des relations avec des pays américains, avec l'Asie, avec la Chine. Donc il faut aussi que l'Europe accepte de comprendre qu'elle n'est pas la seule interlocutrice pour les affaires africaines.
De nouveaux dirigeants, de nouvelles mentalités, de meilleures pratiques. Et est-ce qu'il y a pour répondre à cela sur le continent africain aujourd'hui, comment dire, une véritable dynamique entrepreneuriale?
Oui, il y a une dynamique entrepreneuriale. Si on prend le cas du Ghana, est un pays qui s'industrialise, qui a une économie extrêmement diversifiée. Les universités ghanéennes à l'échelle africaine sont de très bonnes universités. Et à l'échelle internationale sont tout à fait correctes. Donc on a des pays qui sont, je dirais, des prototypes qui sont extrêmement intéressants. Bon, l'Afrique du Sud pour d'autres raisons. Des pays également comme l'Angola et le Mozambique. Donc il y a, je dirais, ici ou là, des choses qui avancent. Maintenant, il faudrait arriver, je pense, à les continentaliser. Aujourd'hui, le défi qu'on a sur le continent africain, c'est qu'on a des success stories un peu isolé et qu'il faudrait arriver à en faire des prototypes pour d'autres pays qui ont beaucoup plus de difficultés, d'où l'intérêt du Liberia, qui est un pays qui doit encore se reconstruire et qui, à mon sens, gagnerait davantage à prendre exemple sur des pays comme le Ghana, sur des pays comme le Botswana, plutôt que sur la France, étant donné que la situation de ces pays africains est quand même plus proche de celle du Liberia, qui est un pays africain, que le cas de la France, qui n'est pas, je dirais, un modèle auquel on pourrait comparer le Liberia. En revanche, il y a d'autres pays où il y a une forte contestation sociale, je pense notamment au Sénégal, du fait que les entreprises françaises sont de plus en plus présentes et que cela ne se traduit pas nécessairement en emploi pour la population sénégalaise. Donc ça pose pas mal, je dirais, de tensions économiques, politiques et sociales.
Ouais.
Et puis aussi le fait qu'il y ait d'autres investisseurs, la Chine, les pays du Golfe aussi, qui soient présents sur le continent africain, en sachant que l'investissement appelle à des retombées positives et qu'il faut bien distinguer l'investissement, l'aide et l'autosuffisance. Et je pense que le modèle ghanéen est extrêmement intéressant en termes de rupture.
Hamzat Boukhari Yabara, on cite souvent en exemple la gestion du Rwanda.
Oui, alors
c'est une réussite.
Alors c'est une réussite relative. C'est une réussite relative parce qu'il y a, je pense, des points qui sont soulignés effectivement en termes de développement des technologies, en termes de développement économique, de croissance économique, en termes de parité, en termes, je dirais aussi, d'éducation. Néanmoins, les questions politiques, les questions géopolitiques sont beaucoup plus complexes et controversées. Donc effectivement, l'actuel président rwandais, bon, qui est président depuis un certain temps, Paul Kagame, préside actuellement l'Union africaine, tente de remettre en place, je dirais, un modèle d'autosuffisance et d'autofinancement de cette institution. Ouais. Un peu calqué peut-être sur la manière dont il a développé le Rwanda, mais il faut savoir que le Rwanda est quand même très largement dépendant de l'aide internationale, notamment des États-Unis, d'Israël et du Royaume-Uni. Donc c'est quand même assez fragile d'une certaine manière, mais c'est quand même un cas de renaissance d'une certaine manière et en même temps de controverse du fait des relations avec ce qui se passe dans l'est de la RDC voisine, bien évidemment.
Hamzat Boukhari Yabara, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France Inter. Je rappelle, historien, docteur au Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales.
France Inter. Pierre Veil. Un jour dans le monde.
À suivre dans Un jour dans le monde, dans la prochaine demi-heure, plusieurs rendez-vous. Le cinéma dans le monde, c'est le mercredi avec Eva Bétan. Bonsoir Eva,
bonsoir.
Vous nous parlerez de
films. L'imaginaire et du réel, la forme de l'eau, film de monstres, mais ça parle de l'Amérique d'aujourd'hui aussi. Et le réel, filmé frontalement dans un film iranien qui s'appelle Cas de conscience.
Et puis on ira en reportage au Kenya. Et puis 18h55, Claude Guibal, l'édito Diplo et la tragédie dans ce quartier de Damas, la Ghouta, en ce moment, sous les bombes d'Assad.
Oui, Pierre, on va parler de morale. Vous savez, c'est un gros mot. Et finalement, c'est pourtant le seul qu'il faut avoir face à l'indignité de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie.
À tout à l'heure, Claude. Voici le groupe de Pharrell Williams, Nerd, et l'album No One Ever Really Die, un album qui est sorti il y a quelques semaines. Et on va écouter un extrait, couleur musicale un peu nonchalante au début. Et puis la chanson va s'emballer avec Don't Do It et l'intervention de Kendrick Lamar. Don't Do It, une chanson qui dénonce les violences policières qui visent les Afro-Américains aux États-Unis, bien sûr. Out the car.
Face off Adolf Hitler, grandkids laid off. Niggas, same rules, same truck, different decade, same law. Keep focused, you wanna get caught with your eyes open. You wanna stay clear of the prognosis. Pride provoke them, watch the motion. Watch them close enough to let the host up, make erosion. Roller coaster ride, that bitch. Sooner later, sides go switch. You know Johnny got that itch. How many more rush? Gotta chill, call up, numb, slay, by the play, bash, stop, wait, break.
Don't do it, c'était le groupe Nerd.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et voici Florence Paracuelos sous les radars de l'actualité. Florence, direction d'abord la Floride. Et une réunion de la Chambre locale des représentants hier.
La séance a logiquement commencé par une prière pour les 17 victimes de la tuerie du lycée de Parkland la semaine dernière. Puis un projet de loi est mis au vote pour interdire les fusils d'assaut semi-automatiques et les chargeurs à grande capacité. Précisément ce qu'a utilisé le tireur du lycée. La Chambre est à majorité républicaine et le résultat est le suivant. 71 voix contre et seulement 36 voix pour cette interdiction des lycées. Lycéen de Parkland assiste au vote. Cheryl Aquaroli, 16 ans, laisse éclater sa colère. La prochaine fois que quelqu'un tire avec un fusil d'assaut ici en Floride, c'est sur eux qu'il tirera. Ils seront les prochains sur la liste et ce sera de leur faute. Ce sera de leur faute si les gens meurent. Parce qu'ils auraient pu faire quelque chose aujourd'hui. Le cri du cœur d'une lycéenne. Elle est revenue à froid sur le vote quelques heures plus tard sur CNN pour dire son désarroi. Elle ne pensait pas qu'il y aurait 71 votants contre le projet de loi qui ont appuyé sur le bouton non comme un seul homme. 71 personnes qui ne se sont pas senties concernées par les événements et qui se fichent de la sécurité. À la Maison-Blanche, Donald Trump s'est contenté d'évoquer hier un possible âge minimum pour se procurer ses armes semi-automatiques avec de gros chargeurs. Dans un pays où un État peut décider d'abolir l'âge minimum pour chasser avec de vraies armes. Le Wisconsin, il y a 3 mois, a autorisé les enfants de moins de 10 ans à tirer dans l'espace public avec des fusils.
Florence, on embarque pour le Congo-Kinshasa maintenant, où Joseph Kabila joue avec les nerfs des sociétés minières.
Mais oui, va-t-il ou pas promulguer le nouveau code minier voté par son Parlement ? La question, figurez-vous, intéresse le monde entier, parce qu'on a tous, sans le savoir, du cobalt de RDC dans les batteries de nos téléphones portables ou dans nos ordinateurs, et qu'on en aura bientôt dans les batteries de nos voitures électriques, nos futures voitures. Cet or gris est extrait aux 2/3 des mines congolaises, parfois par des enfants, avant d'être transformé et exporté en Chine. Son prix à la Bourse des métaux de Londres a quasiment été multiplié par 3 ces 2 dernières années, 82 000 $ la tonne. Alors qu'à la sortie des mines, les Chinois et les Canadiens le payent 7 000 $. Voilà pourquoi l'État congolais voudrait bien que ça lui rapporte plus. Il a prévu de multiplier par 5 sa taxe cobalt pour la faire passer à 10%. Une taxe sur les super-profits des exploitants et des raffineurs de minerais a aussi été votée. Les lobbies, vous l'imaginez, font tout ce qu'ils peuvent pour dissuader Joseph Kabila de promulguer la loi. Et tout le monde attend désormais la décision du président congolais sans se faire beaucoup d'illusions sur le partage des richesses que pourraient générer ces taxes.
Enfin, retour sur le phénomène, Florence, le phénomène Black Panther.
Le super-héros noir, oui, des studios Marvel est d'ores et déjà un énorme succès, 420 millions de dollars de recettes dans le monde, dont la moitié aux États-Unis. Chez nous en France, 1 million d'entrées en une semaine. Et plus qu'un film, c'est un véritable phénomène. Grâce à vous, de nombreux jeunes gens vont enfin découvrir des super-héros qui leur ressemblent sur grand écran, a tweeté Michelle Obama au réalisateur Ryan Coogler. Celui-ci remercie aujourd'hui ses centaines de milliers de spectateurs. Nous n'aurions jamais imaginé que vous nous donneriez autant de force. Le fait de voir des gens de toute classe sociale s'habiller spécialement, prendre des photos à côté des affiches du film, parfois même danser dans le hall des cinémas, nous a émus aux larmes avec ma femme. Sans doute pense-t-il, entre autres, à cette scène filmée dans le hall d'un cinéma sud-africain. Ce sont des gens qui dansent. Ou encore à cette séance absolument contagieuse dans une école d'Atlanta à majorité noire, breakdance, des enfants qui venaient d'apprendre qu'ils iraient tous voir Black Panther au cinéma. C'est tout. totalement réjouissant, Pierre. Cette séquence est absolument merveilleuse.
Absolument. Florence Paracuelos sous les radars de l'actualité.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
L'escale reportage, on reste en Afrique dont on vient de parler avec Florence Paracuelos, le Congo et puis avec notre invité ce soir, Hamzat Boukhari Yabara. Et une expérience très particulière au Kenya, le revenu universel testé grâce à une ONG, l'ONG américaine Give Directly, verse environ 20 euros par mois à tous les habitants majeurs d'un village. L'argent arrive directement sur le portable des bénéficiaires. Un projet qui a pour ambition de complètement repenser l'aide humanitaire et la lutte contre la pauvreté dans le monde. On retrouve notre correspondante au Kenya, Laure Broulard. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Vous êtes rendue dans ce village pionnier du Kenya où l'on teste donc ce revenu universel.
Oui, alors vous ne connaîtrez pas son nom pour des raisons de sécurité des habitants, mais c'est un petit village rural kényan à première vue tout à fait banal, avec des maisons en torchis, des toits de tôle au milieu d'une campagne aride. Ici, sur les rives du lac Victoria, la population rurale vit dans une extrême pauvreté, mais ce n'est plus le cas de Plister Oloo, une veuve de 70 ans. Elle reçoit 20 euros tous les mois depuis plus d'un an. En revenant de son champ, elle prend quelques minutes pour parler de sa nouvelle vie.
Auparavant, mes enfants étaient renvoyés de l'école, parfois pendant des semaines, en attendant que je puisse payer les frais de scolarité. Avant, j'étais si stressée que je ne dormais pas la nuit. J'avais peur de ne pas pouvoir nourrir mes enfants. J'avais peur du lendemain. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourtant, je ne veux pas rester sans rien faire. Je veux augmenter mon salaire pour faire évoluer ma situation. Avant, je faisais tout toute seule. Je travaillais comme une folle. Mais maintenant, je travaille moitié moins, car j'embauchais quelqu'un. En ce moment, d'ailleurs, il fait du défrichage. Nous pouvons aussi acheter des graines de meilleure qualité qui nous assurent une meilleure production.
La somme versée aux habitants a été calculée pour subvenir seulement à leurs besoins de base. Alors, pour pouvoir acquérir des biens plus importants, les villageois utilisent un système bancaire traditionnel appelé le merry-go-round. Ils forment des groupes de 5 à 10 personnes, chaque membre donne 10 euros chaque mois et la somme totale revient à tour de rôle à l'un d'entre eux. Grâce aux 100 euros qu'ils ont reçus d'un coup via ce système, Jacqueline Ocotte et son mari ont pu quitter le foyer parental et se construire une maison à eux. Son petit garçon endormi sur ses genoux, elle prévoit son budget pour le mois.
Matchbox, 30 bob. I'm getting my own money.
Je reçois mon propre argent et je sais gérer mon budget. Mais certaines ONG ne vous aident pas directement. Par exemple, elles versent les frais de scolarité directement à l'école. Alors qu'au même moment, vous avez un problème à la maison, vous ne pouvez même pas nourrir votre enfant. Mais cet argent-là, c'est nous qui le recevons et nous en faisons ce que nous voulons.
Si aujourd'hui Jacqueline se dit satisfaite du programme, c'est en dépit du regard désapprobateur et des menaces des villages voisins. Car l'arrivée d'un salaire sans travail a généré les rumeurs les plus folles dans la région, rendant parfois difficile l'enrôlement de nouveaux bénéficiaires.
Les autres, ils sont jaloux et ils racontent plein de choses au sujet de cet argent. Ils disent que c'est l'argent du diable, que si on prend cet argent, les serpents vont venir dans nos maisons. Mais vous voyez, je l'ai attendu, ce serpent, depuis que je reçois cet argent, et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu.
À l'entrée du village se trouve la maison du chef, Kennedy et Sora Nabagi. Il a activement participé à l'implantation du projet de revenu universel qui a, selon lui, des retombées positives sur sa communauté.
Vu que tout le monde reçoit l'argent, les relations entre mari et femme se sont améliorées. Avant, des querelles éclataient à propos du manque de nourriture ou d'habits, mais maintenant que chacun peut mettre de l'argent sur la table, les couples se réunissent et discutent du budget.
Alors, Laure Broulard, il faut préciser que ce n'est qu'un début, un village pilote. L'ONG Give Directly est en train de mettre en place le plus grand test de revenu universel au monde.
Tout à fait. Pas moins de 200 villages devraient y participer. Certains recevront 20 euros par mois pendant 12 ans, d'autres pendant 2 ans, et d'autres encore des transferts d'argent ponctuels. C'est un projet de 30 millions de dollars qui vise à révolutionner l'aide humanitaire. Caroline Tetti, directrice des relations extérieures de Give Directly.
En moyenne, on estime que 140 milliards de dollars sont investis dans l'aide humanitaire chaque année dans le monde. Mais selon les économistes qui travaillent avec nous, les transferts d'argent pourraient sortir de la pauvreté les populations des pays qui reçoivent ces aides pour seulement 70 milliards de dollars. Donc moitié moins. Donc ce que nous disons, c'est que si, d'après les données que nous allons récolter, le revenu universel apparaît comme une bonne solution pour réduire la pauvreté en Afrique, il pourrait alors devenir une option pour les gouvernements ou les acteurs humanitaires.
Aujourd'hui, GiveDirectly assure que les cas de mauvaise gestion de l'argent, dépensés en alcool par exemple, sont minimes, mais il faudra attendre plusieurs années pour tirer de véritable conclusion de l'expérience.
Laure Broulard, reportage au Kenya, les années 60, avec un des inventeurs de la bossa nova, c'est maintenant Antonio Carlos Jobim. L'aéroport de Rio porte son nom, figure historique, sous danso samba et un saxophone irrésistible.
So danso samba, so danso samba, vai, 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 vai. So danso samba, so danso samba, vai. So danso samba, so danso samba, vai, 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 vai. So danso samba, so danso samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai.
So danso samba, Antonio Carlos Jobim.
3, 2, 1, letter.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Et le cinéma dans le monde, c'est maintenant avec Eva Bétan, des films à voir cette semaine. Oui. Eva, le cinéma permet tous les rapprochements. Alors vous réunissez ce soir un film américain réalisé par un Mexicain et un film iranien.
D'abord, c'est de la diplomatie quasiment.
Tout à fait, c'est très bien vu. Voilà, d'abord le film américain, Eva, c'est un des favoris des Oscars, 13 nominations, dont meilleur film. Et il s'agit de La forme de l'eau de Guillermo del Toro.
Alors il fait partie, de la bande des cinéastes mexicains qui ont fait de l'entrisme à Hollywood. Les autres s'appellent Alfonso Cuarón, Alfonso González Iñárritu. Ils jouent pas dans la seconde division, hein. Ils ont les gros budgets. Leur film, c'est Gravity, c'est The Revenant. Et l'un d'eux, Iñárritu, a déjà eu le Graal dans l'échelle américaine, qui est l'Oscar, c'était pour Birdman. Guillermo del Toro, lui, il aime le fantastique, il aime les monstres, par exemple. C'est plein d'inventivité, mais vous pouvez aussi regarder La forme de l'eau comme le film d'un immigré futile de luxe qui regarde l'Amérique. Il inverse les codes. Ça se passe en 1962, dans un laboratoire militaire secret qui détient un monstre, une créature. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir où vous mettez le gentil et le méchant. Le méchant, là, c'est le représentant de l'autorité. C'est un colonel qui est sadique, qui maltraite ce gentil monstre pour qui vous avez de l'affection. Et les gentils, c'est ceux qui n'existent pas, ce sont les invisibles de la société. Pour le colonel, mais on peut dire aussi pour l'Amérique. Il sort dans l'Amérique de Trump. C'est une femme de ménage muette d'origine latina qui a une collègue noire et qui est aidée aussi par un homosexuel. Et même le monstre, c'est l'autre absolu. C'est l'intégralité radicale. Le monstre vaut d'être aimé puisqu'il va susciter une passion amoureuse. Alors ça, je dirais, il y a déjà cette lecture qui est claire, même si c'est en même temps un film de divertissement, je vous le dis tout de suite, c'est pas un brûlot. Et en même temps, vous allez voir tout ce dont nourrit un metteur en scène. Par exemple, cette année, 1962, une année où l'Amérique va bien, eh bien, il fait le parallèle avec aujourd'hui. Guillermo del Toro.
C'est une période pendant laquelle l'Amérique a été amoureuse d'elle-même. Elle croyait en l'avenir, la course pour la conquête de l'espace, les voitures, les cuisines équipées, toute cette modernité. Le slogan actuel, « Rendez sa grandeur à l'Amérique », c'est à cela qu'il fait référence, à une Amérique qui, en fait, n'a jamais vraiment existé. Tout ça, c'était du toc. Kennedy est mort cette année-là, en 1962, et avec Kennedy, une Amérique qui n'avait en fait jamais existé est morte. Je pense que c'était l'époque idéale pour situer l'histoire.
Quand je vous dis que tout est politique, même l'amour.
L'histoire du film se situe en 1962, mais c'est un film sur notre époque. Sur le plan politique, c'est contemporain. Même le fait de parler d'amour, c'est politique, parce que nous vivons dans un monde très violent, plein de haine. Le cynisme paraît intelligent. Le romantisme, l'émotion, ça paraît idiot. Moi, je crois dans la beauté et dans le pouvoir de l'amour.
Propos recueillis par Corinne Pellissier.
La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Eva Bettan, sur les écrans aussi, un film iranien, Cas de conscience de Vahid Jalilvand. Le titre est très clair, c'est vraiment un cas de conscience.
Complètement, et il est posé tout de suite. Un médecin fait une embardée en voiture, il renverse une famille en fait qui est sur un scooter, puisqu'il y a les parents et un petit garçon. Ça a l'air d'aller. Le lendemain, le garçon gît dans la salle d'autopsie. Il est mort. Il est mort, l'autopsie le dira, d'une intoxication alimentaire grave. Mais le médecin, qui est lui-même médecin légiste, se persuade que non, que c'est l'accident. Alors que ce serait son, ça le sert de se dire qu'il est mort accidentel, qu'il est mort de cette intoxication. En d'autres mains, ça pourrait être un film si. On voit la culpabilité qui court. Hein, mais ce n'est pas la manière d'aborder le film. Je ne veux surtout pas généraliser, mais il y a une chose intéressante dans les films iraniens ces dernières années. C'est, on le voit par exemple chez Asghar Farhadi, c'est la manière de construire les films comme des engrenages. Et c'est l'importance des dilemmes moraux. Ici, c'est aussi un engrenage qui, à bout d'un moment, devient systématique et rigide, et les problèmes moraux finissent par être appuyés. Ça n'empêche que c'est un film très intéressant, parce qu'il montre la différence des classes sociales. Avec toute la culpabilité du monde, vous n'enlèverez jamais le fossé qu'il y a entre un peuple extrêmement pauvre et une moyenne bourgeoisie. On voit aussi un pays déprimé, un pays où les relations sociales sont dures.
Merci Eva Bettan. Je rappelle le titre de ce film iranien, Cas de conscience de Vahid Jalilvand. Merci Eva.
Le 18-20, Pierre Veil sur France Inter.
L'édito Diplo avec Claude Guibal. Claude, c'est un drame humain dont on va parler ce soir. Il en est question dans nos journaux sur France Inter. Vous avez peut-être entendu la colère ce matin de Bernard Guetta à 8h15 dans son édito diplomatique. Le drame de la Ghouta en Syrie. Le pilonnage de cette poche rebelle près de Damas qui a fait près de 300 morts en 3 jours. Le chef de l'ONU appelle à l'arrêt des combats. Emmanuel Macron réclame une trêve dans les meilleurs délais. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui dit hier craindre un cataclysme humanitaire. Ce qui se passe dans la Ghouta, Claude Guibal, c'est un drame humain, un désastre moral qui dépasse de loin les frontières de la Syrie.
Oui Pierre, depuis 7 ans, ce conflit a entraîné le monde au-delà des ténèbres, au point qu'on en a d'ailleurs aujourd'hui oublié l'origine. Souvenez-vous, ces enfants de Dera emportés par le souffle des printemps arabes, ces gamins qui en 2011 écrivent sur un mur à la sortie de leur école « Mort au dictateur ». Leur corps torturé sera rendu à leurs parents quelques jours plus tard. Et souvenez-vous, c'est cette horreur qui va cristalliser les colères et faire peu à peu entrer la Syrie dans la spirale de la folie meurtrière, les gaz, le djihadisme, la barbarie. Nous tous, dans ce studio, vous probablement, qui nous écoutez chez vous, en voiture ou dans la rue, nous avons ce sentiment de compassion sûrement, de révolte peut-être, mais surtout ce sentiment d'impuissance un peu lâche, d'acceptation devant la répétition des faits, bref, cette résignation. Oui, mais que faire? Oui, quelle solution? Oui, mais il est trop tard.
Claude, comment aurait-on pu empêcher cela?
Alors ça, la question, Pierre, on se l'est posée à chaque fois qu'il y a eu un Verdun, un Auschwitz, Srebrenica, Alep ou un petit Thaïlande mort sur une plage, on s'est dit plus jamais cela. C'est ce qu'on s'est dit après la Première Guerre mondiale, dont on commémore cette année la fin. Plus de 18 millions de morts. Alors pour éviter que ça ne recommence, on a à l'époque créé la Société des Nations, un espace de résolution des conflits, mais faute de mécanismes contraignants, cette Société des Nations, eh bien, n'a pas résisté à la folie provocatrice d'Hitler et de Mussolini. Alors du coup, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a créé les Nations Unies et cette fois, on y a ajouté des outils comme le Conseil de sécurité, les casques bleus, tout ça c'était censé aider à faire respecter le droit international. Puis avec les guerres d'indépendance, la multiplication des conflits asymétriques, on a aussi précisé les règles de la guerre, on a ajouté des protocoles aux conventions de Genève, on a mis des lignes rouges, ne pas cibler les populations civiles ni les infrastructures qui permettent leur survie.
Et Claude Guibal, avec la guerre en Syrie, tout cela est réduit à néant.
Réduit à zéro. On cible les hôpitaux, on empêche l'aide humanitaire, on affame, on terrorise, on instrumentalise les peurs. Avec l'entrée en scène des djihadistes, l'abandon de la communauté internationale, l'implication de toutes les puissances régionales, en Syrie, on le voit, toutes les lignes sont brouillées, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants, la complexité est telle qu'on ne veut plus regarder ce conflit. Les jeux d'alliance sont devenus totalement fous, comme en ce moment avec les Kurdes, ces Kurdes qui se battent contre le régime à Deir ez-Zor, mais qui sont à ses côtés, à Afrin, contre les Turcs. La Syrie, Pierre, c'est le tombeau aussi des institutions internationales. On l'avait déjà vu avec l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis. Les Nations Unies sont totalement inutiles dès qu'un pays doté du droit de veto est impliqué dans un conflit. C'est le cas ici avec la Russie. La Syrie, c'est le cimetière de la réelle politique. Ce concept selon lequel on peut accepter de sacrifier des considérations éthiques si cela sert des intérêts à court, moyen ou long terme. Or, Pierre, en Syrie, ces concessions faites à la morale et à la dignité n'ont produit aucun effet positif. Elles n'ont jamais rien empêché, ni la contagion de l'instabilité, ni la barbarie, ni l'indignité, ni les millions de réfugiés qui ne rentreront pas chez eux. Et cela, Pierre, il faudra bien un jour accepter d'y réfléchir.
Claude Guibal sur France Inter, il est 19h.